Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h17 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la documentariste Rokhaya Diallo. Bonsoir.
Bonsoir.
Le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir Didier
Bonsoir
Pourquerie.
Marco. Bonsoir à tous.
Non, pardon, Yves Tréhard. C'est moi, j'ai dit Didier Pourquerie. J'ai mélangé sur ma feuille.
Vous
avez répondu à
ce
au bon titre,
je
mais
confirme.
Pas au bon nom en fait.
Je confirme.
Vous êtes Yves Tréhard,
oui.
Directeur adjoint du Figaro. De Figaro. Didier Pourquerie, directeur du site The Conversation France. Bonsoir Didier.
Bonsoir Marco.
Et Yves Chécot, ancien ministre. Bonsoir.
Bonsoir.
Allez, attention, sujet hautement inflammable. La taxe carbone à l'origine de l'incendie des Gilets jaunes, mais supprimée par Emmanuel Macron il y a 2 mois, revient dans le débat. On vous en parle depuis hier soir. 86 députés, dont la plupart issus de la majorité, allument la mèche dans le Figaro ce matin. Ils plaident pour une fiscalité carbone juste socialement. Mais le président a douché leurs espoirs en Conseil des ministres. Ce n'est sans doute pas par une hausse de la fiscalité qu'on répondra à la colère qui s'est exprimée. Alors faut-il une fiscalité verte, même si c'est impopulaire? On va en parler dans un instant sur les réseaux sociaux. J'imagine que le thème sera abordé ce soir dans la grande explication face au Premier ministre David Pujadas sur LCI. Et RTL, David.
Évidemment, ce thème sera abordé, non seulement cette taxe carbone qui repointe le bout de son nez, mais d'une manière plus générale, l'impression que ce mouvement est parti, c'est vrai, d'un ras-le-bol fiscal, et que finalement, c'est un peu le concours Lépine des propositions pour augmenter les impôts.
C'est ça, et c'est un peu ça le sujet du soir, c'est que finalement, ça a ouvert la boîte de Pandore, non ?
Voilà, depuis quelques temps, c'est vrai qu'il y a eu les niches fiscales, il y a eu une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, on a même évoqué une taxe sur la vente des résidences principales. Donc, bien sûr, la vedette ce soir, ce sont les 10 Français qui seront face au Premier ministre, mais ces thèmes-là, ils les ont en eux, et on attend des réponses. On attend des réponses du chef du gouvernement.
10 Français qui sont des gilets jaunes ?
Alors, non, il y a une gilet jaune...
Ingrid Levavasseur, donc.
Ingrid Levavasseur, voilà. Il y a des ex-gilets...
Ah, on vous a perdu, David. Des ex-gilets jaunes. On va voir si on vous retrouve. Allons-y, ouais.
Leur gilet. Et puis, par ailleurs, il y a des sympathisants, des opposants. Mais j'allais dire, les gilets jaunes, c'est pas toute la France. Donc, la majorité d'entre eux n'ont rien à voir avec les gilets jaunes, mais certains les soutiennent. C'est
on vous
salariés,
perd.
Des retraités... des petits patrons, des indépendants, c'est vraiment et toute la France et toutes les régions.
Vous avez vu ce sondage, et on va en parler également dans Refait le Monde, maintenant les Français en ont ras-le-bol un peu hein, des gilets jaunes. Est-ce que ça va être également abordé ce soir dans l'émission ?
Non, pas tellement, on est plus nous dans cette histoire de grand débat et de, comment dire, tout ce qui est organisé pour que les vérités des Français sortent. Et pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils disent parfois leur ras-le-bol, parfois leurs espoirs, parfois leurs suggestions, tout simplement. C'est plutôt dans cette optique-là que l'émission est organisée ce soir, pas tellement par rapport aux gilets jaunes. Comme vous dites, on en a énormément parlé. Là, on est peut-être dans une autre phase.
Merci, on vous retrouve avec Yves Tréhard, qui est avec nous, qui va vous rejoindre, et Elisabeth Martichoux. Ça sera sur RTL à suivre, évidemment sur LCI. Merci, David. Sur les réseaux sociaux... La taxe carbone, Benoît.
Eh ben, ça recommence. Hausse, péage, taxe, ils se fichent de nous, s'énerve déjà Lucie. Visiblement, certains n'ont toujours pas compris que si on utilise un véhicule motorisé en milieu rural, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative et qu'il n'y en aura jamais. Vous êtes déconnecté de la vie réelle, soupire Fred. Absence totale de sens politique, confirme Dominique. Pas forcément, répond Mimo. Ils ouvrent des pistes pour une fiscalité écologique plus juste. Ils sont dans leur rôle. C'est un vrai débat, faut pas l'occulter sous prétexte que quelques excités en jaune veulent faire la loi dans ce pays. Et le député Ex En Marche, Mathieu Orphelin, d'insister en un tweet, ce n'est pas le retour de la taxe carbone, mais une fiscalité carbone juste socialement. Mesures d'accompagnement, de redistribution, utilisation des recettes, rythme, secteur. Réfléchissons ensemble. Joël applaudit ce courage pour une fiscalité carbone simple, lisible et 100% redistribuée afin qu'elle encourage les pratiques vertueuses, sans aspect négatif sur le pouvoir d'achat. Non mais vous trouvez vraiment que c'est le bon timing là ? Vous pouvez pas attendre la fin du grand débat pour savoir ce qui va sortir ? Ladia. Pourtant, je suis écolo, mais là, vu ce que nous subissons depuis 3 mois, ça va intensifier la colère, avoir des conséquences graves, s'inquiète Marie. Commençons par dessiner une stratégie cohérente de transition, conclut Mathieu. Elle réclame pas tant de moyens supplémentaires, plutôt une réallocation permanente des ressources de la nation, assure-t-il.
Yves Jégo, vous seriez encore député, vous auriez signé cette tribune dans le Figaro de ce matin ?
Je sais pas dire.
Je vous pose la question en même temps.
Si j'aurais signé, mais non, mais moi je suis partisan d'une fiscalité écolo pour essayer de faire deux choses. D'abord de changer les habitudes, d'essayer d'inciter, parce que c'était le but de la taxe carbone, c'était d'inciter les gens à moins rouler en diesel. C'était la première vertu. Et la seconde vertu, c'est de rentrer de l'argent. Alors là, il s'est posé un problème, c'est qu'une grande partie de l'argent qui rentrait grâce à cette taxe, elle n'allait pas du tout au combat pour la transition écologique. Elle allait dans
mais
le budget de l'État.
Vous croyez sincèrement que quand bien même elle aurait été fléchée, elle dirait à la transition écologique, elle serait passée cette taxe, franchement.
Je pense que ça aurait peut-être été moins difficile si les Français avaient eu le sentiment, par exemple, qu'ils étaient beaucoup plus subventionnés pour changer leurs fenêtres, que ce n'est pas soir à énergie, pour des choses très visibles sur cette question-là. Mais au fond, derrière ça, il y a l'illisibilité de notre fiscalité, il y a un ras-le-bol fiscal qui est une évidence dans notre pays. Moi, je reste persuadé à titre personnel qu'il faudrait un grand soir fiscal, mais alors facile à expliquer ici, beaucoup plus difficile politiquement à mettre en œuvre, parce qu'on a une fiscalité illisible, plus personne n'y comprend rien, on ne sait pas ce qu'on paye, pourquoi et dans quel objectif. Et effectivement, le combat noble de la transition écologique, il vient se noyer au milieu d'une fiscalité qui est complètement illisible. Je ne suis pas sûr que j'aurais signé j'aurais plutôt signé un texte pour demander une mise à plat fiscale de l'ensemble de la fiscalité française.
Mais c'était dans le Figaro de ce matin. Vous aimez allumer les incendies, Yves Tréa.
Bah non, c'est pas nous qui avons écrit la tribune, comme vous le savez. Ils sont 87 signataires, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils viennent d'horizons politiques un peu différents, même s'ils sont tous, pour faire vite, de la mouvance centriste. Mais je trouve que c'est une faute politique majeure. Enfin, je veux dire, ils ont rien compris. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec Yves Jégo. Il y a une réflexion à conduire et à mener en bonne intelligence sur la fiscalité en général, qui est complètement illisible et qui est insupportable pour beaucoup de Français. Et puis aussi pour voir comment on peut changer, parce que c'est aussi par la fiscalité qu'on peut changer les habitudes. Mais prononcer le mot de taxe carbone aujourd'hui, alors que vous avez la France, qui n'est pas à feu et à sang, faut pas exagérer, mais qui est en plein débat, en pleine réflexion, et qui s'est réveillé, je dirais, et qui s'est mis en colère à cause de ce mot-là, eh bien, je trouve que c'est une erreur politique majeure.
Est-ce que c'est pas un ballon d'essai? Parce qu'on assiste à plein de ballons d'essai.
De la part des parlementaires. Beaucoup de parlementaires sont pas contents parce qu'ils ont l'impression de s'être fait manipuler par Orphelin, pensant avoir signé cette tribune quand Orphelin était encore à La République En Marche.
Bien sûr. Non, mais ça, il y a un coup de jarnac derrière, et je pense que le président de la République, ce matin, il devait faire grise mine,
j'imagine.
Oui, Didier Pourquerie. C'est facile de dire il faut arrêter d'augmenter les taxes. Attention. Pourquoi il y a eu les gilets jaunes? Bien sûr contre la taxe carbone, mais aussi contre le sentiment d'injustice fiscale. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas juste que ça soit toujours les mêmes qui payent et qui n'en retirent pas grand-chose en échange. Moi, je pense au contraire, je suis absolument d'accord avec cette tribune publiée dans le Figaro, parce que elle met les coups de projecteur sur les bons endroits. C'est-à-dire, il faut changer les habitudes. Et comment changer les habitudes quand on a un gouvernement? Par la fiscalité, je suis désolé. Il n'y a pas 36 autres
méthodes. C'est un peu la question. Est-ce que c'est le moment?
Ah non, mais c'est le moment. C'est jamais le moment, ou c'est le moment au contraire. Il y a eu pas mal de grandes réformes fiscales dans le monde qui ont été décidées à chaud comme ça, y compris en Suède, etc.
Et même pendant la guerre, puisque Caillaud avait décidé de l'impôt sur le revenu en 1914, je crois, juste avant la guerre.
Oui, mais là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment profiter de cette grande réflexion, de cette grande remise à plat là-dessus, pour se dire, non pas une réforme générale qu'on fera jamais, mais en tout cas un objectif qui est une fiscalité finançant la transition écologique.
Rocaille.
Manifestement, il y a un problème de clarté dans ce qui est dit, le fait qu'il y ait une grande partie des députés de la majorité qui proposent de revenir sur un point qui est manifestement un point sensible pour les Français, puisque ça a provoqué les mouvements sociaux que l'on sait, même si je suis tout à fait partisane d'une fiscalité écologiste, je pense que ce sentiment d'injustice qui vient d'être justement désigné d'injustice fiscale, qui était lié aussi au fait que c'est quand même un gouvernement qui a supprimé l'ISF, on arrive quand même dans ce contexte-là, et que les gens qui étaient essentiellement touchés par l'instauration d'une taxe carbone sont sont des gens qui ont besoin de leur véhicule pour tout simplement se déplacer, donc qui ont l'impression que depuis un endroit qui est Paris, où les gens n'ont pas forcément, ont des alternatives en tout cas en termes d'usage de voiture, leur impose une situation en fait qui va dégrader leur vie sur le plan simplement matériel, ça ne fonctionne pas. Et après, je pense que si on doit modifier les habitudes, on doit aussi impliquer les gens qui sont les plus gros pollueurs, donc les grosses entités,
Total,
les entreprises, etc.
C'est, ça, voilà.
C'est pas possible en fait de faire entendre aux Français qu'ils doivent sacrifier d'une certaine manière quelque chose si on ne tape pas sur les plus gros. Et je pense que ça aussi, ça compte. Et si on doit mettre les choses à plat, on doit les mettre à plat de manière beaucoup plus large et beaucoup plus inclusive.
Mais l'erreur de départ du gouvernement, c'est pas tellement l'aspect écologique, puisque l'aspect écologique, bon, en plus c'est difficile aujourd'hui d'être contre l'écologie, c'est que sans prévenir, ils ont augmenté, rendez-vous compte, le prix du litre de diesel et d'essence de façon colossale. C'est-à-dire qu'entre l'arrivée de M. Macron à l'Élysée et sa sortie, si jamais il ne fait que 5 ans, le prix du diesel, du litre de diesel aurait pris 22 centimes. C'est énorme. Et c'est surtout ça
c'est
qu'ils ont
vu. C'est énorme et c'est dissuasif.
Mais oui, mais comme l'a dit Rokhaya, quand vous habitez loin d'un centre-ville, vous devez prendre votre voiture pour aller travailler.
Aides, si vous avez des aides pour changer de voiture. Et puis un autre point que je voudrais souligner absolument, c'est la justice, ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait une taxe carbone, moi j'y crois beaucoup, même sur le transport aérien et sur le transport de croisière.
Oui, qui n'est pas taxé.
Il faut que ça aille jusque-là pour faire changer les habitudes. Faire changer les habitudes, c'est aussi travailler sur notre bilan carbone en tant que citoyen.
On dit un mot dans un instant de ce sondage sur les Gilets jaunes, puisque la taxe carbone a généré ce mouvement dont les Français commencent à avoir ras-le-bol.
On refait le monde
dans RTL Soir
avec Marc-Olivier Fogiel.
Un mot du sondage d'aujourd'hui sur ces Gilets jaunes. 56% des Français estiment que la mobilisation des Gilets jaunes doit s'arrêter. 64% des sondés affirment également ne plus se reconnaître dans les revendications des manifestations du samedi. Donc, sondage Elab aujourd'hui. Vous comprenez, Didier Pourquerie, vous soutenez ?
Oui, bien sûr, parce qu'après 13 samedis, il y a une sorte de répétition. Et surtout, les gens ne comprennent plus trop ce que c'est les personnes... On voit le RIC, on voit des choses comme ça, mais on ne comprend pas bien, en tout cas, beaucoup de gens autour de moi ne comprennent pas bien ce qu'ils veulent, quoi. Et pourquoi c'est si violent, systématiquement. Et puis, il y a un aspect répétitif, les choses sont toujours pareilles, quoi. Donc, je pense qu'il y a une lassitude bien compréhensible.
Une lassitude et une confusion. Je ne pense pas que les Français aujourd'hui se dissocient des raisons qui ont mis les gens
dans
la
rue. Des mouvements dans la. C'est des manifestations du samedi, quoi.
C'est ça, voilà. Et puis, mais c'est la violence après qu'on n'arrive pas forcément à évaluer à sa juste mesure, c'est-à-dire proportionnellement entre les gens qui sont à l'extérieur et les gens qui sont auteurs de violences qui sont assez spectaculaires. Je pense que ça entraîne effectivement un mouvement de rejet. Je suis certaine que ça a aussi pesé sur le fait que des gens n'osent même plus manifester de peur d'être eux-mêmes exposés à des brutalités, soit du fait de certaines personnes qui se revendiquent des Gilets jaunes mais qui ne le sont pas forcément, ou des brutalités policières. Donc je comprends effectivement qu'il puisse y avoir un sentiment de lassitude, tout simplement lié au fait qu'on ne comprend pas très bien qui veut quoi et qui est pour quelles raisons à l'extérieur.
L'impact économique aussi de ces manifestations.
Oui, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est effectivement les commerçants de centre-ville, des petits chefs d'entreprise, des artisans qui ont été touchés d'ailleurs par les violences, parfois, parce qu'ils ont eu des vitrines, des commerces qui ont été saccagés, et puis qui voient la désaffection du public, parce que même quand il y a des villes, je parlais avec des maires de villes moyennes qui n'ont pas connu d'exaction du tout, de violence, et ben, les gens n'osent pas sortir. Donc, et en plus, dans des périodes de fêtes de fin d'année, de soldes, où normalement, eh bien, ils soignent leur chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc ça les rend... Alors que, justement, beaucoup de ces commerçants étaient plutôt d'accord avec certains des motifs, notamment les motifs fiscaux de la colère. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, c'est que la rue est livrée le samedi à des éléments violents, un noyau dur, je dirais, c'est le cas de le dire. Ils sont pas très nombreux à l'échelle de la population, puisque
il faut dire les choses, il y aurait pas eu les précédents samedis, on en parlerait à peine dans les
exactement,
médias, vu le nombre de manifestants.
Mais c'est ce que
en
vous
fait,
disent, hein. Alors c'est ce que vous disent certains, ils vous disent, mais nous on continue, on est acharnés parce que de toute manière, si on continue pas, eh bien, le gouvernement va laisser tomber. Je pense que c'est beaucoup moins vrai, parce que je pense que le gouvernement, si vous me permettez l'expression, a eu chaud aux fesses, le président de la République aussi, et qu'il y a un débat qui est engagé. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que ce débat a un grand succès si on en croit aussi la fréquentation, ça veut dire que les Français attendent quelque chose. Je suis d'accord avec Rocaillot. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation.
Ah, il n'y a pas quoi qui me trompe dans les noms. Rocaillot.
C'était Rocaillot de Diallo, vous voulez dire.
Mais on a bien compris.
Oui, pardonnez-moi. Mais c'est là où il y a une confusion, si vous voulez. Mais ce qui m'interroge quand même, c'est de savoir comment cette violence va s'arrêter. Parce que je ne vois pas comment les pouvoirs publics,
c'est vrai que c'est une question,
quelle que soit la législation qui sera adoptée, plus restrictive,
faire entrer le dentifrice dans le tube.
Je ne vois pas.
Yves Jégot.
Oui, enfin, je comprends moi la lassitude des Français qui ne peuvent plus aller faire leurs courses le samedi. Je comprends l'exaspération des commerçants qui vont pour beaucoup mettre la clé sous la porte. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Quand on est commerçant, 14 ou 13 samedis, on ne peut pas travailler, c'est fini. C'est la fin. La rentabilité des commerces de proximité est tellement faible qu'ils n'y résisteront pas sur ce sujet. Puis il y a des images qui sont quand même insupportables de voitures brûlées, enfin des casseurs. Mais je suis un peu d'accord et même très d'accord avec Yves Traer. Je vois pas bien comment ce noyau de 10, 15, 20 000 acharnés va pouvoir le juguler. Il y a une perspective électorale, mais elle n'est pas très claire puisqu'il y a plusieurs listes gilets jaunes en préparation. Il y a ce grand débat qui va déboucher sur quoi, on ne le sait pas encore, référendum ou pas référendum. Et tout ça est un entre-deux dont je ne suis pas sûr qu'il puisse se terminer aussi vite que certains l'espèrent.
Allez, dans un instant, on parle d'Alain Juppé, donc qui ferme le livre de sa vie politique.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauché.
Avec Rocaille Diallo, Yves Jégot, Didier Pourquery, Yves Tréhard, le meilleur d'entre nous devient sage. Alain Juppé va donc quitter la mairie de Bordeaux pour rejoindre le Conseil constitutionnel à la demande de Richard Ferrand. Yves Jégot, on peut dire que c'est la fin de sa vie politique.
C'est la fin de sa vie politique. Moi, j'ai beaucoup de respect. J'ai soutenu d'ailleurs Alain Juppé au deuxième tour de la primaire il y a maintenant 2 ans. J'ai du respect pour lui. Je trouve qu'il a eu un parcours tout à fait exceptionnel, fait de forts moments et puis des moments de terribles pour lui.
Quand il était droit dans ses bottes.
Mais c'est vrai.
Et quand il a été condamné.
Il a été droit dans ses bottes, il a été condamné. Il a été battu. On oublie qu'il était ministre d'État en charge de l'écologie quand il était battu aux élections législatives et qu'il a quitté le gouvernement, ce qui a été pour lui très difficile aussi à vivre à titre personnel. Bon, moi j'ai une forme. Je trouve un peu triste cette fin. Je trouve ça un peu triste. Je pense que ça va laisser à Bordeaux une situation qui est loin d'être réglée, mais il y a un Bordelais autour de cette table.
C'est Didier Pourquery.
Je ne parlerai pas à sa place. Et puis, je trouve que, même s'il sera sans doute un excellent membre du Conseil constitutionnel, comme Lionel Jospin était un excellent membre du Conseil constitutionnel, avec un autre ancien Premier ministre qui est Laurent Fabius, lui aussi d'ailleurs passé par les affres de la justice, comme quoi le Conseil constitutionnel est une forme de rédemption sur sujet. Moi, je trouve ça un peu triste. Voilà, je suis un peu triste.
Le Bordelais.
Ah, bon, je ne suis pas du tout triste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, je trouve que c'est assez logique. Il y a un ancien Premier ministre autour de la table des sages. Donc ça, c'est parfait. Ça m'amuse, parce que j'ai mauvais esprit, ça m'amuse parce que Didier Migaud devait y être pour débarrasser, c'est ce qu'avait prévu Macron, pour débarrasser
la
Cour des comptes et faire sa place à Moscovici, ce qui fait que, voilà. Mais surtout, Didier Migaud est content de rester à la Cour des comptes, mais Moscou n'est pas forcément ravi. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est pour Bordeaux. Et moi, je trouve que, comme je suis un vieux Bordelais, je me souviens des derniers mandats de Chaban-Elmas, et on disait toujours, c'est le mandat de trop. D'ailleurs, aujourd'hui, à Lyon, il y a un titre de la Tribune qui dit Colomb, le mandat de trop. Vous savez, il faut toujours se méfier quand on est maire du mandat de trop.
Ça, c'est
évidemment,
bien vrai.
Évidemment, c'est pas forcément ce qui se serait passé, mais il y avait
ça
quand même
évite,
un peu.
En tout cas, le mandat de trop.
Il y avait un petit risque de ça.
Mais la succession n'est pas prête. Là.
La succession n'est pas prête, apparemment. Apparemment, mais on ne sait pas. On va demain à 11h, il y a une conférence de presse. On en saura plus.
Bah, la fin d'un homme politique, quand il a décidé d'aller jusqu'au bout du bout, c'est toujours. C'est toujours triste, pas triste pour ceux qui le regardent, mais bon, ça veut dire que bon, c'est terminé, c'est fini. Je ne sais pas si ça sera fini pour Alain Juppé, qui est quelqu'un qui peut écrire. Robert Badinter était président du Conseil constitutionnel, il a beaucoup écrit après. Roland Dumas a écrit d'excellents livres sur ses mémoires, ses souvenirs. Il a écrit deux qui sont fabuleux après avoir été dans des conditions compliquées président du Conseil constitutionnel. Pour ce qui est de Juppé, moi, ce qui m'amuse, c'est de voir que finalement les deux meilleurs d'entre eux, à droite et à gauche, qui ont le même physique ou presque le même parcours intellectuel.
Vous parlez de Fabius,
l'autre ? Fabius et Juppé vont se retrouver côte à côte. L'un, c'était l'homme, l'avenir de la droite, l'autre incarnait l'avenir de la gauche. Ils étaient d'une intelligence, on peut le dire quand même, même si on les aime pas, supérieure. Très largement supérieur, et pour les avoir interrogés plusieurs fois.
Donc c'est pas l'intelligence qui fait la carrière.
C'était des gros calibres, des très gros calibres, et ils ont loupé tous les deux la marche à laquelle ils étaient promis, ce qui était celle de la présidence de la République.
C'est bien, pour la, ça donne de l'espoir pour la réinsertion des anciens délinquants. C'est bien, l'un et l'autre, je trouve ça bien. Moi je suis favorable à ce que les gens aient une vie après les condamnations à la justice, donc ça fait plaisir. Mais pour être
il a un peu porté le chapeau pour tout le monde.
Oui, non, bah oui.
Mais bon, il n'était pas complètement, enfin je veux dire, c'était pas quelque chose qui n'était pas lié à lui et à ce qu'il avait fait. Oui, enfin ça existait, enfin donc voilà. Du coup, en fait, moi, ce qui m'ennuie, c'est de voir que le Conseil constitutionnel, c'est un peu une maison de retraite pour anciennes personnes politiques.
C'est-à-dire
que non, mais je veux dire il y a trois nominations,
ça
trois hommes.
Énorme,
non, mais hein. Trois nominations, trois hommes.
C'est-à-dire
qu'on a aussi envie de voir un Conseil constitutionnel qui fasse écho à ce que la France est aujourd'hui. Et c'est vrai que de voir que sur les trois, que le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, aucun des trois n'a trouvé
un sujet,
n'a trouvé le moyen de trouver une femme, de trouver des gens qui peut-être sont peut-être plus jeunes aussi. Je pense que c'est important de ne pas donner l'impression que le Conseil constitutionnel n'est constitué que de personnes qui ont une vie professionnelle, une vie politique très très importante, et qu'il y a des gens qui sont aussi en position d'être en activité professionnelle ou politique, qui sont en mesure de réfléchir à l'application de la Constitution, qui est quand même
le Conseil constitutionnel dans le temps, entre le Conseil constitutionnel modèle général de Gaulle et aujourd'hui, c'est ultra politisé.
Oui.
Et que le Conseil constitutionnel, bien souvent, se substitue à la représentation nationale sur des décisions. Je ne mets pas en cause sa légitimité. Il faut une autorité de ce type-là dans une République. Enfin, on a vu un changement très profond, d'une assemblée de juristes qui disait la loi, on est passé sur une assemblée beaucoup plus politique, et l'entrée d'Alain Juppé ne va pas rééquilibrer les choses dans un sens de la rigueur du législateur ou du juriste.
Mais il a aussi de nouvelles attributions avec les questions prioritaires de constitutionnalité, donc ça veut dire aussi qu'il y a peut-être une dynamique intéressante qui s'est mise en place avec les gens qui représentent aujourd'hui la nation, et je pense que cette représentation devrait vraiment s'incarner dans des personnes qui ne sont pas à la fin de leur carrière.
Imaginez qu'une partie des membres soit élue, ce ne serait pas choquant.
Peut-être.
D'ailleurs, si vous faites un tour du monde, vous vous apercevez qu'il n'y a pas de cour suprême qui soit parfaite, comme aucun système politique parfait.
Oui,
je vous invite à regarder ce qui se passe aux États-Unis.
Oui,
ils sont
avis. Ouais.
Hein,
et
ils ont eu un poids sur la vie politique qui est énorme. Ouais,
allez, dans un instant, un dernier sujet. Les écoles qui ne vont plus écrire père et mère dans leur formulaire administratif. Ça a été voté à l'Assemblée. Remarque, c'était déjà le cas dans beaucoup d'écoles. Hein.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fauchière.
Dernier sujet ce soir avec Yves Jégo, Didier Pourquery, Yves Tréhin, Rokhaya Diallo. Parent 1, parent 2. L'Assemblée nationale adopte donc un amendement en faveur des familles homoparentales qui supprime les mentions père et mère dans les formulaires scolaires au profit donc de ce parent et parent 2. Cet amendement, que soutenait pas Jean-Michel Blanquer dans le cadre de son projet de loi sur l'école, vise à ancrer dans la législation la diversité familiale des enfants, explique la députée La République En Marche, Valérie Petit, à l'origine du texte. Parent 1, parent 2, c'est déjà ce qu'il y a dans les livrets de famille. Hein. C'est époux 1, époux 2. Alors, est-ce que ça vous dérange ou pas sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Beaucoup de réactions. Écoutez, on s'y perd, ou plutôt, on s'y parent 1, comme dit Sponda. Et FX imagine déjà les réunions de famille. Alors lui, c'est frère 3 de parent 2, qui est marié à tante 4, tu sais, le parent 2 de cousin 8. Et Antoine, d'imaginer les gardes partagées. Alors les enfants, semaine 2 chez parent 1 et semaine 2... Ah non, attendez, bref, ça ricane. Mais Kelly s'agace, vous êtes ridicule. On parle d'un formulaire d'inscription à l'école, que ça, hein. Pas d'un acte civil, faudrait redescendre là. Confondre un intitulé sur des documents administratifs avec le langage de la vie, soupire Corinne, qui rappelle que c'était pareil quand on avait mis nom de naissance à la place de nom de jeune fille. On aurait dit que le monde allait s'écrouler. Oui, puis vous avez qu'à barrer et mettre père si ça vous défrise autant, dit Laure. Mais Karine trouve cette loi vraiment stupide. Il n'y a plus de bon sens. La minorité impose ses règles et rend la majorité dépendante d'idées à bracadabrante. Mais d'où, réplique Perrin, c'est juste des dossards qui conviennent enfin à tout le monde. Faut être gravement fragile pour sentir sentir son hétérosexualité menacée par ça. Mais c'est pas ça, ça va rabaisser l'un des parents au rôle de parent 2, s'inquiète Christelle. Non, dans la vie, vraie vie, vous aurez toujours le droit de dire papa et maman, explique encore Luna. Alexandre lui rappelle que c'est l'une des premières mesures de Salvini en Italie, supprimer ça pour le retour de père et mère. Si la droite revient au pouvoir en France, aura-t-elle le courage de le faire? Laurent Wauquiez répond d'un tweet, oui.
En tout cas, tout à l'heure, on a entendu Ludivine de la Rochère, ou Ludovine d'ailleurs, je sais pas, je crois que c'est Ludovine.
Ludovine
de la Rochère, de la Manif pour tous, vent debout, mais il faut être honnête, ça choque, ou en tout cas, ça interpelle un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément de la Manif pour tous et qui voient leur repère bouleversé et qui ne sont pas d'accord, Yves Tréhard. C'est pas que la Manif pour tous qui est bouleversée par
tout ça. Je pense qu'on a quand même beaucoup d'autres chats à fouetter que de s'exciter là-dessus, mais. Moi, je suis, par exemple, je pense aux couples hétérosexuels qui divorcent et qui se divorcent dans de mauvaises conditions. Je sais pas quel est celui qui va vouloir endosser le rôle de parent d'eux. Ça va être compliqué. Ils vont se disputer là-dessus. Moi, je pense que la meilleure des solutions, ça aurait été, bon, bah, le mariage homosexuel est un fait. Ça aurait été de laisser le choix père-mère ou parent 1, parent 2, si vous voulez, sur les sur tout formulaire, d'ailleurs.
C'est ce que proposait le président de l'association des familles parentales, qui est père-père, mère-mère, et on coche, quoi, grosso modo.
C'était la meilleure des solutions. Je pense que ça aurait été le mieux. Je ne pense pas que ça ait des conséquences, cette réforme, qui produise des troubles psychologiques sur les uns et les autres, comme peuvent le dire certains. Première chose. Et deuxièmement, je conseillerais à M. Wauquiez, si jamais il revient aux affaires un jour...
Mais il n'en est pas parti, des affaires. Vous voulez dire s'il revient aux affaires de la France jour, parce que là, il est à la tête quand même des Républicains.
Oui. Non, mais un jour, je ne sais pas quand, peut-être lointain. En tous les cas, s'il revient, je lui conseillerais de ne pas toucher à ça, parce que vraiment... Il y en a ras-le-bol, quoi.
Je vous rappelle que François Fillon voulait revoir le mariage pour tous.
Non, alors François Fillon.
Enfin, l'adoption.
Non, il voulait revoir les conditions d'adoption.
Ouais, je vous rappelle.
Et ça, c'était un vrai sujet, éventuellement, qui voulait se comprendre. Qui avait une autre gravité, je dirais, au moins, que cette histoire.
Bah, c'était le même, excusez-moi, mais pour bien connaître le sujet, c'était la continuité. Si vous voyez l'adoption, il n'y a plus de père et il n'y a plus de parents derrière. Il n'y a même plus de parents d'eux, donc.
Non, mais d'accord.
Voilà, c'est radical.
Ça pouvait se concevoir sur un plan philosophique. Je ne partage pas l'opinion de M. Fillon, pas du tout. En revanche, j'admets qu'on puisse avoir cette réflexion-là. Ça me paraît beaucoup plus intelligent que cette réflexion sur les formulaires.
Voilà une des raisons qui fait que je ne regrette pas d'avoir quitté l'Assemblée nationale. Parce que c'est vraiment le cas typique du truc que personne ne demande, qui sort parce qu'un groupe de députés a pris une idée un matin. Et moi, j'ai une réflexion qui est un peu plus large. Mais est-ce que c'est à la loi de régler ce genre de choses? Est-ce qu'il faut une loi pour savoir comment on rédige les formulaires scolaires, mais qu'on foute la paix aux enseignants, aux responsables, aux proviseurs, aux directeurs d'école pour rédiger les choses comme ils estiment le faire et ils sont assez en phase avec la société, sans que la loi, les parlementaires ne viennent utiliser leur temps de travail pour légiférer sur des choses de cette nature-là. Enfin, c'est le monde à l'envers.
En même temps, quand vous dites pourquoi ils s'en mêlent, mais parce qu'il y a quand même un certain nombre d'associations, en l'occurrence des associations homoparentales, qui étaient heurtées par un certain nombre et qui demandent à ce que les choses évoluent.
J'entends. Mais est-ce que dans un pays bien fait, c'est du domaine de la loi ou ça devrait être du domaine de laisser la liberté? Moi, je serais pour une chose simple, en disant laissons la liberté au directeur d'établissement de faire les formulaires les plus adaptés à ce qu'est la situation d'aujourd'hui. Et puis les choses se mettront en place tout seul. Enfin, la loi s'occupe de tout, de tous les détails du dernier formulaire administratif. Mais on marche sur la tête.
Ça ne me semble pas anormal quand même qu'il y ait une obligation légale pour les administrations de faire en sorte de proposer une dénomination qui soit inclusive. Bien alors sûr. Peut-être que parent 1, parent 2, j'avais pas pensé au fait que le parent 2 pouvait être vexé, donc peut-être que la solution c'est de doubler père et mère pour permettre effectivement à chacun d'adopter
Voilà. Mais je pense qu'un décret du ministre aurait dû suffire à régler ça.
Oui, sans doute. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, il faut qu'il y ait une obligation qui vienne, qui soit pas liée à une décision en fait de chaque établissement, parce qu'on
c'est
peut imaginer qu'il puisse y avoir des résistances. En revanche, je pense que c'est la moindre des choses, étant donné l'existence des familles homoparentales, que de permettre aux parents de se reconnaître et puis aux enfants de pas se sentir justement exclus parce que leur modèle familial n'est pas reconnu par les papiers d'administration de l'école. Donc
modèle familial, en tout cas, ce qui était marrant et ça fait moins polémique, c'est quand il y a eu, vous avez les papiers du recensement qui sont arrivés chez les uns et les autres il y a quelques semaines. Et alors, je vous lis quand même, et là, ça n'a pas fait hurler Ludovine de la Rochère. Hein. Pour les couples homoparentaux, un parent se déclare père et l'autre mère, quel que soit leur sexe. Et donc, vous receviez ça chez vous. Et donc, voilà, il y en a un qui devait se déclarer mère quand vous êtes deux pères, ou inversement, quand il y a deux mères, il y en a une qui devait se déclarer père. Et c'est comme ça. Donc, bon, ça, ça a beaucoup moins fait hurler la manif. Pour tous, mais c'est écrit noir sur blanc. Hein. Pour les couples homoparentaux, un parent se déclare père et l'autre mère, quel que soit leur sexe. C'est l'INSEE hein, qui revendique, qui revendique
ça. C'est là où le gouvernement, dans un décret, devrait régler tout ça très tranquillement. Et sans que ça devienne une affaire dont les parlementaires s'occupent. La loi doit s'occuper de l'essentiel. Oui. Enfin, et l'accessoire, même si c'est important, je ne dis pas que c'est important, doit quand même rester de l'ordre de l'administration.
C'est bizarre. Cette loi, on discute de choses qui ne parlent pas de la loi, enfin, qui ne sont pas l'essentiel de la loi. On a parlé des drapeaux hier, pourquoi quand on voit qu'il y a des lycées où il n'y a pas de chauffage et qui sont tout pourris de partout,
on en a parlé hier. Si vous voulez bien faire un dernier tour de table, juste comme il reste deux minutes, allez-y. Mais
sur les parents, je trouve que c'est une très très bonne idée parce que il s'agit pour l'enfant qui remplit son formulaire de se sentir parfaitement à l'aise dans le cadre familial.
Je ne veux pas débattre là-dessus puisque je suis directement concerné, mais c'est un peu hypocrite de ne pas le faire parce que, comme j'ai sorti un livre, évidemment, un certain nombre d'auditeurs sont au courant de ma situation familiale. Je peux vous dire, puisqu'on en a parlé à la maison, mais ils s'en foutent, vous savez quoi.
Non,
je peux vous dire, pour bien, pas tous, mais la majorité, ils sont à l'aise dans leur et ils barrent mère quand ils n'en ont pas.
Et
ils mettent père,
vous allez tirer au sort le parent 1 et le parent 2.
Ils barrent et puis ils répondent eux-mêmes. Ce matin, j'ai commencé à en parler pour tout vous dire avec ma petite fille. Elle m'a dit : tu sais quoi ? J'ai dit non, j'ai perdu au foot hier. Ça l'intéressait beaucoup plus de savoir ce qu'elle allait mettre comme parent 1 ou parent 2. Tu sais quoi, j'ai perdu au foot. J'ai dit combien ? 5-0. Je dis t'es nul. Hein. Juste un mot pour conclure. Il y a le boxeur qui est devant la justice ce soir. 2 ans de prison ferme vient d'être requis contre lui, Christophe Dettinger, hein, le boxeur. Juste un tour de table. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? C'est les réquisitions. Hein. C'est pas la décision de justice, Yves Tréhard.
Non, ça me paraît pas énorme. Ça me paraît pas excessif. Ce n'est que réquisitoire. On verra. Et de toute manière, s'il est condamné à 2 ans, je doute qu'il les fasse. Parce qu'en dessous de 2 ans, comme vous le savez, même s'il y a des circonstances,
ça s'aménage. Ouais.
Pourrait être. Parce que là, c'est quand même quelqu'un avec détenteur de l'autorité publique. Donc c'est pas aggravé.
Il reste 15 secondes chacun. Voilà.
Moi, ça me semble beaucoup. Alors après, je ne sais pas si les réquisitions seront suivies, mais ça me semble quand même assez important. Ouais.
Moi, je pense que c'est normal.
Normal.
C'est normal.
Yves Jégo,
pas mieux.
C'est-à-dire normal. 2 ans.
C'est difficile à juger. On verra ce que décidera au fond. Moi, je n'ai pas la grille de lecture et d'application. Ce qu'il a fait était quand même d'une violence inouïe. On l'a tous vu à la télévision.
Quand même que ça soit sanctionné.
Il n'a pas été avec le dos de la cuillère vis-à-vis de policiers.
Il savait ce qu'il faisait.
Qui n'était pas agressif et qui reculait. Voilà, c'est ça la vérité.
Allez, merci à tous les 4 d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h. Arnaud Touche, ensuite Jacques Pradel.
Vous écoutez RTL.